Michel Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion chez FourPoints. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. On a eu véritablement un changement hein, du côté des investisseurs. Alors, c'est toujours les banquiers centraux qui font un petit peu ces marchés, en tout cas depuis plusieurs mois. Comment vous analysez, on va dire, avant l'été, un petit peu l'état des lieux de ces marchés?
Bien, si vous voulez, la décision de la Banque centrale américaine, on la juge plutôt positive. Pourquoi? Parce que si M. Bernanke annonce longtemps à l'avance qu'il va commencer à reprendre les rênes de sa politique très, très laxiste, ça veut dire que la reprise américaine est certainement beaucoup plus forte que prévu. On le voyait déjà quand, à l'intérieur des PNB, des derniers trimestres, on sortait tout le service public et les variations de stock, où on s'apercevait que toute la partie privée de l'économie américaine était sur des taux de croissance de 3%. Donc, c'est très bon que finalement, c'est une très bonne nouvelle. On voit, et c'est confirmé par la reprise de l'immobilier qui ne se dément pas, la reprise des prix de l'immobilier 12% sur un an. Le moral des ménages est au plus haut, et même les investissements qui étaient un peu, qui manquaient dans la picture sont en train de reprendre. Donc, on pense que c'est très très positif.
Donc vous regardez ce côté-là, ce côté
Oui.
positif que ne regardent pas les investisseurs vraiment, hein. Ils sont plutôt sur les questions des taux et le fait que, enfin, comment on va sortir de cette problématique de taux.
Ben voilà, mais si les taux remontent, ça veut dire que l'économie va mieux, que la demande de crédit va repartir. On le voit déjà un peu sur les ménages. Donc, ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est une reprise trop brutale des taux d'intérêt. Mais si les taux d'intérêt remontent tout doucement sur les 3,5-4, il n'y a rien d'inquiétant pour les marchés. Au contraire, ça va être extrêmement favorable aux actions. Alors, les obligations, c'est vrai, mais ça fait un moment que tout le monde dit attention, attention, les taux à 1,50, c'est dangereux et tout. Bon, M. Bernanke ne peut pas faire plus que dire aux gens que ceux qui ont des oreilles entendent et prennent leurs dispositions.
Alors
Mais.
on peut parler de l'historique, l'histoire sur les taux, en général ça se passe quand même pas très bien. On a des souvenirs de
Oui.
quand les taux remontent, on pilote rarement, même si on
Oui.
dit que les banquiers centraux pilotent les marchés, ça se passe rarement bien.
Voilà, mais bon, les États-Unis, c'est une zone en croissance, mais l'Europe, la pauvre Europe, a beaucoup un chemin de croix à parcourir. Le réajustement de l'Europe, il va être long, donc il n'y a pas beaucoup de croissance à attendre de l'Europe, donc ça ne va pas être un facteur vraiment de hausse de taux en Europe. La Chine contrôle. Mais donc, enfin, bien sûr, personne ne peut prévoir les taux d'intérêt, c'est pour ça que nous ne le faisons pas dans notre stratégie, dans notre gestion. Mais enfin, cette décision de la Fed, nous, on la prend jusqu'à présent d'une manière positive, bien sûr, à vérifier qu'il n'y a pas de dérapage.
Donc l'économie américaine plutôt positive. Donc quelque part ce qu'on avait eu sur les indices, quand on avait vu ces indices boursiers américains, notamment le S&P 500 aller au plus haut et il y avait beaucoup d'inquiétudes en disant mais attendez, on est au plus haut alors que l'économie n'est pas encore là. Pe
Oui.
peut-être qu'on va retrouver ce côté anticipation des marchés qui se serait peut-être pas trompé. C'est un peu le
Peut-être, peut-être, mais les marchés ont rebaissé pas mal depuis. Les marchés, vous savez, les marchés, ils anticipent, ils changent d'avis assez souvent, quoi. C'est pour ça que nous, dans notre stratégie, on se garde bien d'essayer de prévoir les marchés. Parce qu'essayer de prévoir les cours d'un indice et puis le cours des valeurs à l'intérieur de cet indice, c'est très difficile. Donc nous, par exemple, dans notre stratégie, on se concentre sur la valeur intrinsèque des sociétés. Ça c'est quelque chose qui ne change pas, on est d'accord.
Alors après, il y a eu, oui, sur les indices, hein, il faut peut-être préciser qu'il y a eu des valeurs technologiques, il y a eu un certain nombre aussi de... faut regarder dans le détail quand on parle.
Absolument, absolument. Donc ça a été des marchés compliqués, même aux États-Unis, parce que les gens craignant ces taux d'intérêt sur les obligations à 1,5 se sont portés sur des actions à dividendes, les proxy, les dividendes proxy, et des sociétés à développement stable, durable, et ont poussé les cours au-dessus des valeurs intrinsèques. Et en Europe, ça a été la même chose. Nestlé est monté jusqu'à 70. Nestlé vient de perdre 15% en 3 semaines. Donc Nestlé redevient à des niveaux attractifs pour des fondamentalistes comme nous. Mais la horde des sangliers sauvages chers au président du Texas, de la fête du Texas, c'est eux qui font monter les cours comme ça, qui font baisser les cours comme ça. Et il faut regarder ce que font les valeurs intrinsèques.
Ce qui veut dire concrètement que ça va peut-être pouvoir donner, peut-être y avoir des opportunités justement dans les prochains mois, si effectivement il y a ces peurs à nouveau sur les taux, puisqu'il y a certaines valeurs qui vont peut-être retrouver des niveaux attractifs.
Absolument, absolument, on le voit déjà. Bon. Si on regarde l'Europe, parlons de l'Europe, mais si on regarde l'Europe, les valeurs de services pétroliers sont à des niveaux extrêmement attractifs, mais on a des upsides par rapport aux valeurs intrinsèques de 80-90%. Je parle des Technip, je parle des CGG Veritas. Et on n'est pas sur des niches. On est le marché des services pétroliers, c'est 500-600 milliards de dollars. Ça croît à 10% par an depuis 10 ans. Tout le monde prédit que ça continue. Les gens n'en veulent pas pour le moment. Pourquoi ? Parce que le pétrole, parce qu'on a peur que le shale gas américain, shale oil, écrase les prix, tout ça. C'est pas d'analyse derrière. Mais quand on regarde les comparables américains, les Cameron, les FMC Technologies, elles sont beaucoup plus haut. Donc voilà.
Pas de raison qu'il y ait ce décalage-là.
Il y a pas de raison qu'il y ait ce décalage, puisque c'est française, c'est Technip, CGG, Subsea 7 en Norvège, ce sont des valeurs globales. Donc voilà.
Alors vous êtes plutôt un stock picker, comme on dit, donc vous avez... Justement, on parlait de fondamentaux sur les valeurs. On pourrait dire que c'est ajouté quand même à la prise de risque d'aller chercher une valeur, le risque pays. Il y a quand même c'est un peu nouveau, ça, au cours des dernières années, certes, mais les sociétés, il a fallu intégrer ce risque pays.
Oui, mais si vous voulez, on est donc spécialisé, nous, on cherche des global leaders, en particulier pour les stratégies européennes, puisque l'Europe va avoir une période de transition difficile et donc toutes les sociétés purement domestiques vont certainement manquer de croissance parce que le consommateur va payer beaucoup d'impôts et les États vont plus dépenser, donc il va y avoir une période de réajustement difficile. Donc d'où l'idée d'aller chercher des sociétés qui sont présentes aux États-Unis, qui sont présentes dans les pays émergents. Et là, si vous voulez, elles trouvent leur chemin. Et on se concentre sur les leaders parce que les leaders sont des sociétés justement qui ont déjà passé beaucoup d'obstacles, de complexité, et donc vont chercher la croissance là où elles se trouvent. Et finalement, elles savent mieux faire que nous. Et donc nous, on suit leur évolution et on leur fait confiance.
Donc on va au-delà des secteurs.
On va au-delà
des
secteurs.
Même si parfois il y a des aberrations, comme vous l'avez rappelé, sur certains secteurs.
Oui.
Et valeur par valeur, il y a des valeurs qui vont... Justement, on parlait de l'Asie, il y a aussi des questions sur l'Asie, sur la Chine, il y a aussi des doutes, il y en a qui ont des gros doutes.
Bon, c'est pas encore.
Il faut que les sociétés aussi gèrent bien cette peut-être moindre croissance.
Absolument. Et nous, on ne va pas sur les pays émergents, justement, parce qu'on n'est pas équipé, il faut des équipes sur place. Et parce qu'on trouve aussi que les sociétés européennes, les leaders justement, pas les domestiques européennes, mais les belles européennes, les belles américaines, ont des avantages compétitifs, mais considérables. On redécouvre des secteurs, la santé par exemple. Alors, ça représente plus de 25% ou 30% de notre portefeuille euro. Alors, on ne parle pas des grosses pharma qui ont des problèmes de tomber dans le off-patent et compagnie, mais on parle de sociétés de technologie médicale. Et on s'aperçoit que ces sociétés, je parle des Elekta pour la radiothérapie. Il n'y a que deux sociétés au monde. Il y a Varian aux États-Unis et Elekta qui est suédoise, mais qui a racheté Philips, etc. Bon, c'est l'aristocratie de ce traitement. Bon, là, elles se partagent le marché chinois à 50%, le marché indien à 50%. Je pense de Carl Zeiss Meditech. Quand vous faites un diagnostic oculaire dans le monde, 75% des diagnostics oculaires se font à partir de leurs produits. Quand il y a une opération du cerveau, c'est à partir de leur microscope électronique. Donc, ces sociétés-là, elles ont l'Europe, bon, le vieillissement de la population fait qu'on consomme plus en Europe aux États-Unis, mais en plus, elles ont la Chine, elles ont tous les pays émergents. Et avant de s'acheter une Porsche, avant de s'acheter une Swatch, les Chinois, ils veulent se faire soigner, ils veulent avoir des dents saines. Quand on va en Chine, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et on construit des milliers d'hôpitaux en Chine, et toutes les sociétés de medtech occidentales vont équiper tout ça pendant des décennies et des décennies.
C'est peut-être le mot de la fin, ça veut dire que pour l'investisseur action qui aujourd'hui regarde ça un peu de loin, qui disait, oh là là, ça va être encore une catastrophe. Il a été rincé, entre guillemets, avec la bulle Internet, avec la crise de 2007.
Oui.
Quelque part, vous lui dites aujourd'hui, mais allez regarder un certain nombre de titres, un certain nombre de valeurs, et vous verrez que vous pouvez faire de l'investissement action pertinent.
N'ayez pas peur, mais il faut avoir la bonne stratégie. Si on conçoit l'investissement comme le pari sur que va faire le marché dans les 6 à 12 mois, et en fonction de ce que je pense que le marché va faire, je mets des sociétés plus ou moins dynamiques, plus ou moins défensives, plus ou moins cycliques, c'est impossible. Monsieur Bernanke ne sait pas vraiment si l'économie américaine accélère très fortement ou pas, et tout ça, comment on pourrait le savoir, nous, avec nos faibles moyens? Donc, par contre, savoir quel est le positionnement de L'Oréal, quels sont les compétiteurs de L'Oréal, comment L'Oréal progresse sur son marché. Quand L'Oréal vous dit on a mis 100 ans pour avoir un milliard de clients et on va mettre 10 ans pour doubler ce nombre de clients, ça veut dire quelque chose. Hein, vous allez voir. Alors, c'est ça, et il faut que ça soit démontré par bien sûr des marges supérieures, marges sur chiffre d'affaires, mais surtout rentabilité des capitaux investis très fort qui permet de générer des free cash flow. Avec ces free cash flow, qu'est-ce qu'on fait? On accélère la croissance, on va en Chine, ou alors on envoie à l'actionnaire des dividendes et du share buyback. Voilà. Je pense que ça va être la décennie des actions.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci, Michel Roux, d'avoir été avec nous, directeur de la gestion chez Four Points.
Merci beaucoup.